Les éléments d'explication, le temps, l'impôt et la croissance. Au final, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la concentration des patrimoines ait fortement diminué dans tous les pays entre 1910 et 1950. Autrement dit, la portion descendante des graphiques 10.1-10.5 consacrée à l'inégalité des patrimoines en France, au Royaume-Uni, en Suède et aux États-Unis n'est pas la partie la plus difficile à expliquer. La partie la plus étonnante a priori, et d'une certaine façon la plus intéressante, est que la concentration des patrimoines ne semble s'être jamais remise de ces chocs. Il faut certes insister sur le fait que l'accumulation du capital est un processus de long terme, s'étalant sur plusieurs générations. La concentration patrimoniale observée en Europe à la Belle Époque est la conséquence d'un processus cumulatif s'étalant sur de nombreuses décennies, voire sur plusieurs siècles. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, il faut attendre les années 2000-2010 pour que le total des patrimoines privés, immobiliers et financiers, exprimés en années de revenu national, retrouve approximativement le niveau qui était le sien à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce processus de remontée historique du rapport capital-revenu dans les pays riches est d'ailleurs, selon toute vraisemblance, toujours en cours. Pour ce qui concerne la répartition des patrimoines, il aurait été tout aussi peu réaliste de s'imaginer que la violence des chocs des années 1914-1945 puisse s'effacer en 10 ou 20 ans et que la concentration des fortunes retrouve dans les années 1950-1960 son niveau de 1910. On peut également remarquer que l'inégalité du capital est repartie à la hausse depuis les années 1970-1980. Il est donc possible qu'un processus de rattrapage, plus lent encore que la remontée du rapport capital-revenu, soit en cours et que la concentration patrimoniale s'apprête à retrouver mécaniquement ses niveaux du passé. Cette première explication, fondée sur l'idée que le temps écoulé depuis 1945 n'est pas suffisamment long, a sa part de vérité. Mais elle est insuffisante. Quand on examine l'évolution de la part du décile supérieur de la hiérarchie des patrimoines, et plus encore la part du centile supérieur, qui était de l'ordre de 60-70% du patrimoine total dans tous les pays européens vers 1910, et qui n'est que de 20-30% en 2010, on a nettement l'impression qu'un changement structurel s'est produit à la suite des chocs des années 1914-1945. Un changement qui empêche à la concentration patrimoniale de retrouver entièrement ses niveaux antérieurs. L'enjeu n'est pas seulement quantitatif, loin de là. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, en reprenant la question posée par le discours de Vautrin au sujet des niveaux de vie auxquels l'héritage et le travail permettent d'accéder, la différence entre une part de 60-70% et une part de 20-30% du patrimoine national détenu par le centile supérieur est relativement simple. Dans un cas, le centile supérieur de la hiérarchie des revenus est très nettement dominé par les hauts revenus issus du capital hérité. Nous sommes dans la société de rentiers décrite par les romanciers du XIXe siècle. Dans le second, les hauts revenus du travail, pour une répartition donnée, équilibrent approximativement les hauts revenus du capital. Nous sommes passés à une société de cadres, ou tout du moins à une société plus équilibrée. De même, l'apparition d'une classe moyenne patrimoniale détenant collectivement entre un quart et un tiers du patrimoine national, et non plus entre un vingtième et un dixième, c'est-à-dire guère plus que la moitié la plus pauvre de la société, correspond à une transformation sociale majeure. Quels sont donc les changements structurels intervenus entre 1914 et 1945, et plus généralement au cours du XXe siècle, par comparaison au siècle précédent, qui font que la concentration patrimoniale ne semble pas en mesure de retrouver entièrement ses niveaux antérieurs? Alors même que les patrimoines privés, considérés dans leur ensemble, ont pratiquement renoué en ce début de XXIe siècle avec leur prospérité d'antan. L'explication la plus naturelle et la plus importante est l'apparition, au cours du siècle dernier, d'une fiscalité significative sur le capital et sur ses revenus. Il est important d'insister sur le fait que la très forte concentration patrimoniale observée en 1900-1910 est le produit d'une longue période historique sans guerre ou catastrophe majeure, tout du moins par comparaison à la violence des conflits du XXe siècle, et aussi, et peut-être surtout, d'un monde sans impôts, ou presque. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'existe dans la plupart des pays aucun impôt sur les revenus du capital ou sur les bénéfices des sociétés. dans les rares cas où de tels impôts existent, ils sont prélevés à des taux très faibles. Il s'agit donc de conditions idéales pour accumuler et transmettre des fortunes considérables et vivre des revenus produits par ces patrimoines. Au cours du XXe siècle, de nombreuses formes d'imposition des dividendes, des intérêts, des profits et des loyers sont apparues, ce qui a radicalement changé la donne. Pour simplifier, on peut considérer dans un premier temps que le taux moyen d'imposition du rendement du capital était très proche de 0% jusqu'en 1900-1910, et dans tous les cas inférieur à 5%, et qu'il s'est établi en moyenne dans les pays riches aux alentours de 30% à partir des années 1950-1980, et dans une certaine mesure jusqu'aux années 2000-2010, même si la tendance récente est clairement une pression à la baisse dans le cadre de la concurrence fiscale entre États, venant notamment des pays de plus petite taille. Or, un taux moyen d'imposition de l'ordre de 30%, qui revient à réduire un rendement du capital avant impôt de 5% à un rendement net d'impôt de 3,5%, est en soi suffisant pour avoir des effets considérables à long terme, compte tenu de la logique multiplicative et cumulative qui caractérise le processus dynamique d'accumulation et de concentration des patrimoines. En utilisant les modèles théoriques décrits plus haut, on peut montrer qu'un taux d'imposition effectif de 30%, s'il s'applique effectivement à toutes les formes de capital, peut être suffisant pour expliquer à lui seul une très forte déconcentration patrimoniale, du même ordre que la baisse de la part du centile supérieur observée historiquement. Il faut souligner que l'impôt, dans ce cadre, n'a pas pour effet de réduire l'accumulation totale de patrimoine, mais de modifier structurellement la répartition à long terme du patrimoine entre les différents déciles de la hiérarchie des fortunes. Du point de vue du modèle théorique, comme d'ailleurs dans la réalité historique, le fait de faire passer le taux d'imposition du capital de 0 à 30% et le rendement net du capital de 5 à 3,5% peut très bien n'avoir aucun effet sur le stock total de capital à long terme, pour la bonne et simple raison que la baisse des patrimoines du centile supérieur est compensée par la montée de la classe moyenne. Ceci est précisément ce qui s'est produit au XXe siècle, une leçon parfois oubliée aujourd'hui. De ce point de vue, il faut également prendre en compte le développement au cours du XXe siècle d'impôts progressifs, c'est-à-dire pesant à des taux structurellement plus lourds d'une part sur les plus hauts revenus et tout particulièrement les hauts revenus du capital, tout du moins jusqu'aux années 1970-1980, et d'autre part sur les plus hautes successions. Au XIXe siècle, les impôts successoraux étaient extrêmement faibles, tout juste 1-2% sur les transmissions de parents à enfants. Un tel impôt n'a évidemment aucun effet sensible sur le processus d'accumulation des patrimoines. Il s'agissait davantage d'un droit d'enregistrement destiné à protéger le droit de propriété. L'impôt successoral français devient progressif en 1901, mais le taux le plus élevé applicable en ligne directe ne dépasse pas 5%, et encore ne s'applique-t-il qu'à quelques dizaines de successions chaque année. Un tel taux, prélevé une fois par génération, ne peut pas avoir beaucoup d'effet sur la concentration patrimoniale, quoi qu'aient pu en penser les détenteurs de patrimoine à l'époque. Il en va différemment des taux de 20-30%, voire parfois bien davantage, qui, à la suite des chocs militaires, économiques et politiques des années 1914-1945, se sont appliqués aux plus hautes successions dans la plupart des pays riches. La conséquence est que chaque génération doit maintenant réduire son train de vie et épargner davantage, ou bien réaliser des investissements particulièrement profitables, afin de permettre au patrimoine familial de croître aussi vite que le revenu moyen de la société. Il devient donc plus difficile de maintenir son rang. Inversement, il devient plus aisé à ceux qui partent de plus bas de se faire une place, par exemple en rachetant les entreprises ou les actifs vendus au moment d'une succession. Des simulations simples montrent là encore qu'un impôt progressif sur les successions peut réduire très fortement la part du centile supérieur caractérisant la répartition des patrimoines dans le long terme. Les différences entre les régimes successoraux applicables dans les différents pays peuvent également contribuer à expliquer certains écarts entre pays, comme la plus forte concentration des très hauts revenus du capital, qui semble renvoyer à une plus forte concentration patrimoniale, observée outre-Rhin depuis la Seconde Guerre mondiale, L'impôt successoral, appliqué aux plus fortes successions, n'a généralement pas dépassé 15-20% en Allemagne, alors qu'il a souvent atteint 30-40% en France. Le raisonnement théorique, comme les simulations numériques, suggère que l'évolution du rôle joué par l'impôt peut suffire à expliquer, sans même évoquer d'autres transformations structurelles, l'essentiel des évolutions observées. Il faut à ce sujet redire que la concentration patrimoniale, bien que sensiblement plus faible qu'en 1900-1910, demeure extrêmement forte. Nul besoin donc d'un système fiscal parfait et idéal pour parvenir à un tel résultat et pour rendre compte d'une transformation dont il ne faut pas exagérer l'ampleur. Le XXIe siècle sera-t-il encore plus inégalitaire que le XIXe siècle ? Compte tenu des nombreux effets en jeu et des multiples incertitudes liées à ces simulations, il serait cependant tout à fait excessif d'en conclure que d'autres facteurs n'ont pas également joué un rôle significatif. Dans le cadre de notre analyse, on voit déjà que deux éléments ont probablement joué un rôle important, indépendamment de toute transformation du système fiscal, et peuvent continuer de jouer un rôle significatif à l'avenir. D'une part, la légère et probable baisse de la part du capital et du taux de rendement du capital à très long terme, et d'autre part, le fait qu'en dépit du ralentissement prévisible de la croissance au cours du XXIe siècle, le taux de croissance, tout du moins dans sa composante proprement économique, c'est-à-dire le taux de croissance de la productivité, en clair, le progrès des connaissances et les inventions technologiques se situera à l'avenir à un niveau sensiblement plus élevé que le niveau extrêmement faible observé pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIIe siècle. Concrètement, comme l'indique le graphique 10.11, il est probable que l'écart RG sera à l'avenir plus faible que ce qu'il était jusqu'au XVIIIe siècle, à la fois du fait d'un rendement plus faible, par exemple 4-4,5% au lieu de 4,5-5%, et d'une croissance plus forte, 1%-1,5% au lieu de 0,1-0,2%, y compris dans le cas de figure où la concurrence entre États mènerait à la suppression de toute forme d'imposition du capital. Si l'on en croit les simulations théoriques, cela impliquerait que la concentration du patrimoine, y compris dans ce cas de figure, ne retournerait pas nécessairement au niveau extrême de 1900-1910. Il n'y aurait pourtant pas lieu de se réjouir, d'une part parce que cette situation mènerait tout de même à une progression très forte des inégalités patrimoniales, la part de la classe moyenne dans le patrimoine national pourrait être divisée approximativement par deux, il n'est pas sûr du tout que cela soit accepté comme un pis-aller par le corps social et politique. Et d'autre part, parce que ces simulations théoriques restent relativement certaines et qu'il existe d'autres forces poussant potentiellement dans la direction inverse, celle d'une concentration du capital encore plus forte qu'en 1900-1910. Il s'agit en particulier de la possibilité d'une croissance démographique négative, qui pourrait pousser la croissance du XXIe siècle, notamment dans les pays riches, à des niveaux inférieurs à ceux du XIXe, ce qui pourrait conduire à donner au patrimoine accumulé dans le passé une importance inconnue jusqu'ici, et d'une possible tendance vers un marché du capital de plus en plus sophistiqué, de plus en plus parfait au sens des économistes, ce qui, rappelons-le, signifie que le rendement obtenu est de plus en plus déconnecté des caractéristiques individuelles du détenteur, et donc pousse dans un sens rigoureusement inverse à celui des valeurs méritocratiques, et renforce la logique de l'inégalité R supérieure à G. Nous verrons également dans le chapitre 12 que la globalisation financière semble engendrer un lien de plus en plus fort entre le rendement obtenu et la taille initiale du portefeuille investi, et que cette inégalité des rendements du capital constitue une force de divergence supplémentaire et extrêmement inquiétante pour la dynamique de la répartition mondiale des patrimoines au XXIe siècle. Résumons. Le fait que la concentration de la propriété du capital soit en ce début de XXIe siècle sensiblement plus faible dans les pays européens que ce qu'elle était à la Belle Époque, est pour une large part la conséquence combinée d'événements accidentels, les chocs des années 1914-1945, et d'institutions spécifiques, en particulier dans le domaine de la fiscalité du capital et de ses revenus. Si ces institutions devaient être définitivement mises à mal, il existe un fort risque pour que ressurgissent des inégalités patrimoniales proches de celles observées dans le passé, voire supérieures sous certaines conditions. Rien n'est certain en ce domaine, et pour aller plus loin dans cette direction, il nous faut maintenant étudier plus directement la dynamique de l'héritage, puis la dynamique mondiale dans les patrimoines. Mais une conclusion apparaît d'ores et déjà clairement, il serait illusoire d'imaginer qu'il existe dans la structure de la croissance moderne ou dans les lois de l'économie de marché des forces de convergence menant naturellement à une réduction des inégalités patrimoniales ou à une harmonieuse stabilisation.